Délective.
Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Je vous résume rapidement les conditions météo et les prévisions pour la prochaine semaine. Regardez dehors, là, des nuages, des percées de soleil, un maximum à 10 degrés. Ben, c'est exactement la même chose qu'on nous prévoit à Québec demain et vendredi. Samedi et dimanche, on prévoit de la pluie et plein soleil lundi normalement avec un maximum de 18 degrés. Sur les routes, Audrey.
Ça commence à être difficile si vous êtes sur la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa. Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne que ça se passe. Si vous êtes sur Henri IV Sud, ça commence à ralentir un peu après Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud, c'est de Charest au pont Pierre-Laporte que c'est difficile. Il y a des problèmes également sur la 20 direction ouest. Entre la route du président Kennedy et Taniata, évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. Ça passe par le 88-971-102 texto.
Match numéro 2. Ce soir entre le Canadien et les Capitals de Washington. Les Caps, qui mènent cette série-là 1-0, sont arrivés très fort dans le match numéro 1. Le Canadien est arrivé moins fort ou en retard, selon vos interprétations. Et là, la question sur toutes les lèvres, c'est pourquoi? Pourquoi il habille pas Jack Eye? Pourquoi il habille pas Jack Eye? Ben, on va poser la question à quelqu'un qui a peut-être une piste de réponse, parce que le Québec au complet se pose cette fameuse question comme si, je sais pas moi, Albert Jack Eye était devenu le sauveur.
Le nouveau Demida.
Oui! Il est à la fois la belle et la boeuf, de ce que je comprends. On va poser la question à Pierre Houde. Salut Pierre!
Salut, Denis, tu parles pas de moi, là, la belle et la bœuf.
Ah, on est tous un petit peu des deux, ça a de l'air, à pourcentage variable.
Ben, d'abord, bonjour tout le monde et merci de m'accueillir en ce mercredi. Parce que je pense que c'est une bonne journée pour se parler, oui. Dans un premier temps. Et je vais me permettre une petite semaine de relâche à partir de demain. Oh, yes. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup à dire après le premier match. Évidemment, cette question-là, elle est sur toutes les lèvres, elle est sur tous les médias sociaux et on va en débattre dans quelques instants. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui bouillonnent dans la Ligue nationale. Il y a des séries qui évoluent, peut-être pas dans le sens qu'on souhaitait. D'autres vont dans le sens qui était assez évident. Alors bref, on a pas mal à dire. Bon, pourquoi pas Jack Eye? Ben, c'est parce que, très honnêtement, Denis, si la raison de la défaite du Canadien avait été exclusivement ou largement portée sur l'absence d'Albert Jack Eye et de ses capacités de redresseur de tort, je te dirais que, effectivement, la question, elle est hautement pertinente et probablement que Martin Saint-Louis aurait considéré l'insérer dans la formation. Mais t'es obligé, même si c'est tentant de voir les Wilson de ce monde puis les désagréables de l'autre côté s'en prendre aux plus petits joueurs, c'est tentant, bien sûr, de dire hey, « si on avait un policier puis si on avait un redresseur de tort ». Mais je rappelle que si le Canadien avait commencé à jouer, ne serait-ce qu'en deuxième période, lors du match de lundi, le Canadien, pour moi, était de loin la meilleure équipe sur la glace en troisième. Le Canadien aurait pu gagner ce match-là. Et je suis convaincu que Martin Saint-Louis réfléchit de cette façon-là. Je ne crois pas que la situation je ne crois pas qu'elle soit exclusivement ou surtout portée vers l'absence d'un bagarreur. Je pense que Josh Anderson peut très bien faire le travail. Je pense qu'Emil Heinemann peut donner des mises en échec. Je pense que Jaden Struble est un défenseur solide qui peut aussi tirer son épingle du jeu. Bref, je suis tout à fait d'accord que pour l'instant, ce n'est pas la façon d'égaler la série un match de chaque côté. La façon d'égaler la série un match de chaque côté, c'est de commencer le travail dès la première mise en jeu ce soir.
J'en parlais avec mes collègues du midi, puis je jouais un peu l'avocat du diable en me disant, s'il n'y a pas de changement à la formation ce soir, c'est qu'à quelque part, Martin Saint-Louis, dans ce match-là, a aimé ce qu'il a vu quand son équipe s'est animée. Est-ce que c'est une décision qui peut se prendre de façon démocratique, Pierre? Est-ce que dans le vestiaire, on peut avoir jasé avec le coach pour dire, regarde, on veut montrer qu'on est capable de se défendre avec l'alignement qu'on a là? Est-ce que c'est la décision d'un entraîneur seul de modifier ses trios, de jouer avec son alignement? Comment ça se passe?
Ben, disons que ta question, elle est très bonne. Puis, ça se passe à la moderne dans la plupart des équipes, Denis. Quand je veux dire à la moderne, c'est qu'exemple, les patrons de jeu Les analyses des vidéos qui sont faites par des gens de plus en plus compétents et qui connaissent le hockey aussi bien, sinon mieux que la technologie ou la technique, c'est beaucoup Trevor Letoski qui fait ça. C'est pas Martin Saint-Louis qui s'assoit à la journée longue puis regarder comment est-ce qu'on pourrait, disons, modifier tel jeu de transition, comment est-ce qu'on pourrait chorégraphier telle ou telle séquence de jeu après une mise en jeu, comment est-ce qu'on pourrait un peu mieux exploiter les faiblesses de l'adversaire en défensive, s'il y en a des faiblesses, puis toutes les équipes finissent par en avoir. Ça, c'est beaucoup le travail de Trevor Letoski et des responsables des vidéos chez le Canadien. Stéphane Robida, lui, c'est les infériorités numériques, c'est les défenseurs, c'est l'utilisation de ces six joueurs à la ligne bleue, et ça, c'est sa responsabilité. Martin Saint-Louis, comme tous les entraîneurs-chefs maintenant dans la Ligue nationale, ont comme responsabilité de faire un tout cohérent avec ça et de le vendre aux joueurs et d'être capable de les mener vers refaire la croyance dans le plan de base. Et les mener vers les ajustements qu'il y a à faire, c'est ce qu'on cherche à faire dans les journées d'entraînement. C'est à peu près maintenant comme ça que ça se passe dans la réalité moderne. Puis évidemment, là, je te parle en dehors des matchs. Je te parle dans les bureaux, puis dans les séances d'entraînement. Évidemment, lors d'un match, ben, c'est l'entraîneur-chef qui doit réagir avec, ben, dans le cas du Canadien, avec Stéphane Robida. Tu te rappelles que Martin Saint-Louis s'était gardé le jeu de puissance. On n'avait pas remplacé Alex Burrows quand Burrows a voulu prendre un peu de recul, mais Martin Saint-Louis est allé chercher un homme en qui il a une confiance absolue, qui est très discret, avec lequel un homme que j'ai appris à connaître et qui est extrêmement d'abord attachant et qui connaît très bien son hockey, c'est Roger Grillo. Ça vous dit peut-être rien, mais Roger Grillo est un homme de confiance de toujours de Martin Saint-Louis. Ils se connaissent depuis les moments universitaires de Martin lorsqu'il développait sa carrière dans les rangs universitaires américains. Et cet homme-là travaille de façon effacée en coulisses, mais travaille très fort aussi pour agir et réagir selon les plans de jeu. Donc, je te dirais que c'est un travail d'équipe, comme tu le disais, mais Martin Saint-Louis est du genre aussi à aller voir son capitaine. Il est du genre à faire comme il a fait hier, parler 10 minutes avec Patrick Laine.
Qui en a bien
Maintenant, qu'est-ce qui
besoin.
se... Ben, qu'il en a bien besoin. Oui, puis non, mais encore là, c'est là où il faut quelque part faire confiance aussi aux gens qui sont en place, Denis. Tu sais, Patrick Laine, on critique souvent les joueurs de talent ou les joueurs qui ont un niveau de production parce qu'ils ne sont pas éclatants à chaque présence. Ça ne veut pas dire que ces joueurs-là ne sont pas importants. Ça ne veut pas dire que ces joueurs-là n'ont pas besoin d'une petite discussion comme ils ont eu hier sur la patinoire. Ça ne veut pas dire que Patrick Laine marquera pas un gros but important ce soir en supériorité numérique. Alors, c'est un peu tout ça. C'est vraiment beaucoup plus collectif maintenant que ce que c'était à l'époque de Scottie Bowman, quand Bowman décidait tout lui-même, là.
Oui, j'imagine. Puis ça, je l'ai constaté, entre autres, parce que maintenant, on nous amène beaucoup en coulisses dans les vestiaires des équipes professionnelles. Puis quand j'ai vu le setup qui ressemble beaucoup à la série The Office, pour les gens qui l'ont suivi, des bureaux d'entraîneurs. Premièrement, c'est le nombre de personnes qu'il y a là. Le premier réflexe que j'ai fait, oh, hey, ça a changé. L'image qu'on avait du coach tout seul, Scottie Bowman, qui callait les shots, merci, bonsoir. Là, tu vois que c'est beaucoup plus collégial, c'est beaucoup plus une réflexion d'équipe. Alors, puis on le constate aussi, je veux dire, maintenant, c'est rendu des statistiques avancées. Maintenant, c'est rendu qu'avant même une mise au jeu, si tu n'as pas réussi à effectuer ton changement de trio, tu sais si tu es en position de force ou en position de faiblesse, comme le but qu'Alexander Ovechkin a marqué en période de prolongation. J'écoutais les analystes en anglais qui disaient, là, le Canadien est dans le trouble parce que Patrick Laine est pas utilisé normalement dans ces situations-là. Demidov est encore une recrue. Alexander Ovechkin est déjà dans son sweet spot, puis c'était drôle parce que, ben drôle, ça dépend du point de vue évidemment, mais 12 secondes plus tard, Alexander Ovechkin mettait fin au match, tu sais.
Alors là, tu m'ouvres la porte sur ensuite un complément aux entraîneurs. Tu sais, il y a des séances d'entraînement, Denis, où c'est Adam Nicholas tout seul qui dirige l'entraînement. Adam Nicholas, c'est le spécialiste du coup de patin, c'est le spécialiste de la technique de patinage. On en a un chez le Canadien. Il y a un responsable des statistiques avancées qui est souvent à bord de l'avion et qui vient faire des voyages avec nous. Tu as des gens Là, en série, je n'y suis pas à bord de l'avion. Je parierais que les ressources en nutrition, psychologue, le docteur de l'équipe, le vrai médecin-chef de l'équipe, j'ose croire que tout ce monde-là est à bord. Donc, en saison régulière, ces gens-là sont là, en périphérie, puis en séries éliminatoires, ils sont tous là, concentrés autour de l'équipe. Alors, c'est le jour et la nuit. Écoute, je me rappelle l'époque où Jacques Lemaire avait lancé un SOS à Jacques Laperrière. Jacques Laperrière, pour moi, ça a été probablement le premier vrai entraîneur, l'entraîneur adjoint. Tu te rappelles Michel Bergeron avec Jacques Cloutier aussi à l'époque. C'était pas mal dans les débuts où les entraîneurs-chefs voulaient se tourner vers un adjoint. Mais là, maintenant, c'est une grande famille, non seulement qui travaille sur le terrain, mais en coulisses et en périphérie. Puis en séries éliminatoires, c'est multiplié d'autant par les besoins qu'ont une équipe. Donc, on arrive pour le match de ce soir, par rapport à il y a une certaine époque, ben, je peux te dire que tout a été décortiqué, tout a été passé au peigne fin. Et là, je boucle la boucle à ta question d'origine. C'est cependant à Martin Saint-Louis de s'assurer qu'individuellement, tous ces joueurs sont éveillés et sont prêts à livrer ce qu'ils ont à livrer. Et ça, c'est son message, Denis, depuis un mois. Il n'arrête pas de dire, chacun de mes joueurs doit se demander, c'est quoi ma prochaine action? C'est quoi ma prochaine décision? Maintenant que j'ai agi, qu'est-ce que je fais après? C'est sûr qu'il prépare son équipe en fonction du caractère sans lendemain des séries éliminatoires.
Dans une série, que ce soit une série de première ronde, une série de demi-finale, c'est après combien de matchs ou après un déficit de combien de victoires ou de défaites que tu commences à faire des ajustements concrets. Je comprends que le premier trio du Canadien, depuis la pause du tournoi des Quatre Nations, s'est considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey. Mais après le match 1, il y en a beaucoup qui disaient « Hey, Slavkovski, à grandeur qu'il a, il doit s'impliquer plus physiquement dans un match contre les Capitals de Washington. » On voit que Demidov a peut-être plus de difficultés avec ses compagnons de trio que lorsqu'on l'avait placé avec des joueurs différents au cours du premier match. Est-ce que c'est le temps de faire des expériences au match 2 où tu continues avec ta formule que tu as? Puis si c'est 0-2, quand on revient au Centre Bell, on commence à rajuster les choses?
C'est probablement ça, Denis, parce que, écoute, tu me demandes mon opinion et je vais te répondre bien humblement. C'est pas moi l'entraîneur-chef. Mais je répète, je regarde ce que j'ai vu du Canadien au minimum dans le dernier tiers du match de lundi, cette équipe-là est venue à un tir de gagner le premier match à Washington. Donc, c'est pas le temps d'apporter des changements, c'est pas le temps de faire des grands bouleversements. Puis je vais même aller plus loin que ça. À 0-2, tu reviens chez toi à domicile, et si le Canadien est compétitif ce soir, si le Canadien est prêt de remporter une victoire, s'il est à distance raisonnable des Capitals de Washington, j'aurais tendance à te dire que tu dois faire confiance aux gens qui sont en place. L'autre facteur qui est très important, Denis, c'est que ce n'est pas une équipe qui a une profondeur infinie,
Non,
là.
non.
Cette équipe-là n'a pas fait de transaction dans le sens ou de liquider ou de peaufiner ton alignement à la date limite des transactions. Donc, cette équipe-là, elle est restée telle qu'elle était parce que Kent Hughes a fait le pari que son capitaine qui était venu le voir, qui a dit, s'il vous plaît, laisse-nous ensemble, touche pas à notre équipe, on va livrer quelque chose d'important. Ben, donc, tu te tournes vers qui et vers quoi? Oliver Kapanen? Oui, je comprends Harbour Jacky, je comprends le raisonnement tout à fait naturel de plusieurs partisans qu'en série, tu te dois de répliquer à l'agressivité par l'agressivité. Mais est-ce que c'est vraiment, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment la façon de battre les Capitals de Washington ce soir? Puis il te reste qui après ça? Michael Pezzetta? Alors, tu sais, puis en même temps, on a décidé de laisser le Rocket de Laval intact. Ça a été la meilleure équipe de la Ligue américaine toute l'année. Puis tu veux que le Rocket, tu veux que tes jeunes à Laval goûtent l'euphorie, pas juste de la victoire, l'euphorie de la domination de l'adversaire. On a choisi de pas aller de ce côté-là. Fait que quelque part, tu dois faire ton lit, tu sais, comme on dit en bon québécois, puis tu dois vivre avec les ressources sur lesquelles tu peux compter, et tu dois espérer que tes jeunes joueurs, ça demeure quand même une des plus jeunes équipes de l'histoire à entrer en série. T'espères que tes jeunes joueurs vont évoluer, pardon, à la grande vitesse grand V, d'un match numéro un à un match numéro deux. Et je crois que cette équipe-là est tout à fait capable de le faire.
Dans au moins deux séries de première ronde, celle de la bataille de l'Ontario, c'est déjà 2-0 mm-hmm. pour les Maple Leafs face aux Sénateurs. Et dans la série entre le Canadien et les Capitals, le sujet numéro un semble être la classique annuelle, l'inconsistance de l'arbitrage ou l'inconstance de l'arbitrage. Puis c'est drôle parce que, oui, je sens un homme tanné là,
oui,
hein? ici. Là.
Non, pas tanné, je suis exaspéré. Bon. Je suis aussi exaspéré que tout le monde.
Mais c'est drôle, puis on dit tout le monde, c'est tout le monde. Les partisans du Canadien n'étaient pas contents de l'arbitrage. T'écoutais les réactions de la foule à Washington.
Ils n'étaient pas contents non plus.
Ils n'étaient pas contents non plus de l'arbitrage. Comment on explique ça? C'est des arbitres qui sont au plus haut niveau professionnel. Évidemment, comme tout le monde, ils ont droit à l'erreur. Mais souvent, c'est des gestes très violent. L'arbitre est juste à côté. Il était à côté de Gallagher quand il s'est fait péter les dents, je veux dire.
L'arbitre a failli perdre les dents.
Oui. Ou se voir les dents de Gallagher, le cas échéant, oui.
J'aimerais avoir une réponse pour toi, mon cher Denis, mais c'est vieux comme le monde. Écoute, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse voir publiquement, peu importe la forme de communication, j'aimerais voir les communications de la Ligue nationale à ses officiels avant le début des séries éliminatoires. Je refuse de croire que François Saint-Laurent, que Jean Hébert, que Ghislain Hébert, que Kendrick Nicholson, que Garrett Rank, que Kelly Sutherland, et je pourrais les nommer, je refuse de croire que ces gens n'ont pas la compétence pour intervenir à chaque infraction qu'il pourrait voir sur la patinoire. Je dis qu'il pourrait voir, parce que même avec deux arbitres, Denis, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas voir. Ce qui avait amené Jacques Lemaire dans la série Les coulisses du hockey, que j'avais produite pendant le lockout d'il y a 20 ans,
ouais.
Il avait dit, un jour, il faudra les sortir de là. Il faudra les sortir de la patinoire pour qu'ils puissent avoir une vision plus globale des choses. Est-ce que c'est réaliste? Je pense pas. Est-ce que je vais voir ça de mon vivant? Je pense pas. Mais ce que j'aimerais que la Ligue nationale puisse faire, c'est qu'au lieu de laisser les pauvres officiels se faire crucifier par tout le monde, à part leur famille immédiate, mais les fans, les joueurs, les entraîneurs, d'abord, je trouve qu'on est très tolérants, si tu veux mon opinion, là. On devrait leur donner beaucoup plus de pouvoir pour décerner des pénalités de conduite antisportive. Je ferme la parenthèse. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la Ligue nationale puisse dire à tous nos amateurs, voici la ligne de conduite globale que nous avons donnée à nos officiels avant le début des séries éliminatoires. Mais la Ligue ne le fera jamais parce que la Ligue préfère se cacher derrière ses officiels.
Ils sont peut-être mal à l'aise aussi avec le message qu'ils lancent à ces officiels-là. Je veux dire, c'est peut-être un message qui paraît bien par en dessous pour dire « Hey, les gens, ils aiment ça, le hockey robuste, on va laisser passer des choses. » Mais c'est des choses que tu peux pas dire publiquement parce que ça va être un fiasco de relations publiques. Là.
Et c'est vrai pour les séries, Denis, mais c'est vrai aussi en saison régulière. Pourquoi est-ce que, dans certains cas, le contact est d'une violence qui peut peut-être blesser éternellement un joueur avec un coup à la tête, parce que dans le libellé du règlement, ça ne se classe pas tout à fait dans un contact de ceci puis un contact de cela, et que dès que le bâton effleure le gant ou la hanche du joueur, il est chassé pour 2 minutes pour accrochage. Vas-tu me dire que c'est François Saint-Laurent qui décide ça? Vas-tu me dire que c'est Kendrick Nicholson qui décide ça? Eux autres, ils ont leur briefing d'avant-saison, puis voici ce qu'on vous demande cette saison.
Ouais.
Les fans aiment la violence, tâchez de leur laisser, et nous, on va vous... Dans le cas où il y a une suspension qui doit arriver, on va demander à notre comité de discipline de le faire. Maintenant, je dis tout ça parce que je pense que c'est comme ça que ça se fait, parce que j'ai assez d'expérience, mais est-ce que j'en ai la preuve? Non, parce que je vois jamais la Ligue nationale venir publiquement soit blâmer un officiel, comme la NFL le fait souvent le lundi matin, soit défendre ses officiels, soit rappeler aux gens qu'est-ce qu'on demande aux officiels comme tolérance et comme non-tolérance pour les séries éliminatoires. On ne le fait jamais. On ne permet même pas aux officiels d'expliquer une décision lorsqu'ils ouvrent le petit microphone pour s'adresser à la foule dans l'amphithéâtre et par ricochet s'adresser aux téléspectateurs. Alors, pour moi, et malheureusement, ceux qui écopent, ce sont les officiels sur la glace, la Ligue a un certain tort là-dedans. La Ligue devrait oser admettre qu'est-ce qu'on tolère en séries éliminatoires. Puis le lendemain matin, s'il y a des trucs qui sont trop gros, pourquoi est-ce qu'on a toléré cette situation-là et par rapport à la punir?
Pierre, tu t'en vas en vacances. Le but des vacances, c'est de décrocher. Pendant tes vacances, tu regardes un peu de hockey, beaucoup de hockey, pas du tout de hockey. Et est-ce que tu mets le son ou tu mets pas le son?
Ben, écoute, je vais t'avouer que ces vacances-là, Denis, ont été planifiées et payées avant que je sache que le Canadien irait en série.
Oh, ça risque de changer la donne un peu,
Attends,
là.
attends, 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 attends. Avant que je sache que le Canadien aille en série et avant que je sache qu'il y avait une élection fédérale.
Oups, c'est bien trop vrai. Toi, c'est une grosse semaine que
tu sais
quittes.
comment je mords, hein? Tu sais comment je mords dans une soirée d'élection, comment j'aime ça regarder ça à la télé. Je me promène d'un réseau à l'autre. Puis là, quand c'est national, ben, tu vois les anglophones puis les francophones. Puis... Alors, écoute, je sais que j'ai pas le droit. Mais j'espère que mon VPN va fonctionner.
Hey, ça le mérite d'être honnête.
Ça, c'est la vraie vie, les amis.
Est-ce qu'on a un délai? On peut peut-être
effacer Oui,
ce
mais
que
il s'est rien dit, là. Il y a eu un gros silence
Regarde,
en même temps. On est en
mais
famille,
sérieusement, mais sérieusement aux États-Unis, il y a des chances que je vois pas mal tout parce que TNT et ESPN se partagent les droits des séries éliminatoires. Et je pense qu'en première ronde, Denis, il y a aussi les réseaux régionaux qui ont le droit de garder leur marché régional. Imagine-toi, je m'en vais à Tampa, je vais être dans le cœur d'une des belles séries qui a à peine commencé
La
hier.
bataille de la Floride.
Les Panthers contre le Lightning. J'ai beaucoup d'amis chez le Lightning. Alors, t'inquiète pas, je vais être au cœur des choses avec les réseaux américains qui en présentent en grande quantité. Puis, qu'est-ce que tu veux? Pour les élections, je ferai un FaceTime avec toi.
C'est bon, ça.
Tu pourras mettre ton téléphone devant Patrice Roy ou devant
Ah,
le
mais
réseau de ton
nous, on a
choix.
une soirée électorale à Boulevard, fait que tu vas pouvoir l'écouter sur
Pour vrai?
l'application,
Ben
ben oui.
oui. Ah ben là, écoute, c'est sûr que je vais vous écouter sur
On a le collègue
l'application.
Jeff Fortin qui a toute une équipe autour de lui pour suivre ça.
On est rendu avec une grosse équipe pour suivre la campagne électorale. Je pense qu'on a plus de monde que la dernière fois que TQS a couvert une campagne électorale.
Bon, on utilise un peu les stagiaires aussi à travers tout ça, là, mais...
Puis-je vous féliciter de faire ça? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais un annonceur, surtout patron à CFGL, qui est Rythme FM à Montréal, dans les années 80, j'ai moi-même insisté pour qu'on ait une toute petite équipe dont je faisais partie, parce que je ne voulais pas rester chez nous les pieds sur le pouf quand j'avais eu cette idée-là. Et on avait, aux 15 minutes, entre différents segments musicaux, on avait eu notre petite soirée électorale et on avait eu un excellent feedback là-dessus. On avait eu un excellent retour. Nos auditeurs avaient beaucoup apprécié. Ceux qui ne peuvent pas regarder à la télé la grande couverture ou qui ne veulent pas le faire, ils avaient apprécié ça. Et ça avait été très apprécié par nos jeunes annonceurs à l'époque à CFGL qui ont tous eu des belles carrières. Alors, je vous félicite d'avoir planifié ça. C'est important. On peut aimer la musique, on peut être un petit peu caricaturiste ou caricatural sur la politique. On peut avoir une vocation de communication qui n'est pas tout à fait attachée à ça. Il reste que le vote populaire et l'annonce du choix du vote populaire, ça demeure un rare élément de démocratie qu'on doit garder. Et je vous félicite d'avoir planifié ça.
C'est le fun, Pierre, parce qu'on est une petite gang à Boulevard, puis souvent, ça vient des collègues et des animateurs eux-mêmes qui disent, ben oui, on veut travailler le lundi soir des élections.
C'est le collègue Jeff qui a levé la main en disant, hey, j'aimerais ça récidiver pour suivre la soirée électorale. Fait que nous autres, on oublie ça, on a sauté à pieds joints dans l'aventure, puis on va l'accompagner là-dedans.
Ce que vous venez d'entendre, c'est moi qui applaudissais. J'applaudis ça. Je trouve que c'est ça notre métier, c'est d'avoir ce flash de passion et avoir envie d'être là pour communiquer, avoir autant envie de communiquer que de communiquer l'information qui est si importante. Alors, je vous dis bravo.
Je te demande pas grand-chose pendant tes vacances, Pierre. Je te souhaite de décrocher. Je te souhaite de refaire le plein. Envoie-moi juste une petite photo d'un verre de scotch ou de whisky avec un petit cigare qui traîne à côté, puis je vais savoir que tout se passe bien.
Écoute, j'ai déjà le petit, j'ai déjà les petits Monte Cristo ici que tu vois à l'écran. Ils
ça
sont
sent
là.
Les vacances.
Oui, ben pour le reste, j'ai pas encore ça.
En tout cas, si t'as pas ton VPN, rachète-toi un autre pack.
oui, inquiétez-vous pas. Et puis, je vous remercie. Et je vous retrouve donc à notre case horaire habituelle, vendredi dans 8 ou 9 jours.
Ah, c'est bon, on pourra parler de l'élimination du Canadien.
Arrête.
Quoi?
Je vous dis de garder la foi. Ceci dit, je remercie Audrey. Je remercie Audrey qui a tenu... qui a pris note des prédictions vendredi dernier.
Oui.
Le jeudi dernier, c'est-à-dire. Uh-huh. Je voudrais remercier Audrey de ne pas avoir mis d'en face que j'avais pris les sénateurs contre les Maple Leafs.
C'est vrai, alors, hein? J'ai pris les sénateurs
aussi, par contre.
Je
voudrais la remercier de ne pas avoir sauté tout de suite sur moi comme un crocodile affamé sur un morceau de viande.
Ben, c'est avec plaisir, Pierre.
Merci, Audrey. Merci. Ça t'honore.
Hey, repose-toi bien, Pierre. Profite-en.
Salut, je vous salue.
Bye. Bonne vacances.
Bon match ce soir. Bon match.
Oh, merci beaucoup, Pierre, qui est officiellement en vacances là. C'est fait.
On était son dernier engagement.
Oui, puis on n'avait rien demandé. Il nous l'a proposé. C'est la grande générosité de notre ami Pierre Houde. Et évidemment, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de planification familiale, de planification personnelle qui est orientée en fonction de ce match-là qui débute à 19h.
Mais là, j'entends ce qui s'est fait avec le match.
Oui, mais moi, ce que je remarque, là, c'est que toi, tu sais que ça commence à 19h. Oui. Les restaurateurs savent que ça commence à 19h. Mes enfants savent que ça commence à 19h. Ce serait le fun que le Canadien sache que ça commence à 19h.
J'aurais peut-être envoyé un texto. On décide des contacts.
C'est peut-être ça qui manque. Ben, rappelle Pierre, puis dis-y de texter Martin Saint-Louis. Hey, oublie pas de dire à tes joueurs que ça commence à 19h, ce game-là. Hey, il est 16h28. On fait une courte pause. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel.